Bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi soir. Ça se dispute avec nos deux débatteurs de choc et fidèles au poste. Mais avant de se disputer, voici la Minute Info, Jeanne Cancard.
En Ukraine, un combattant français a été tué. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministère des Affaires étrangères, 100 jours après le début de l'invasion russe. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, était parti combattre en tant que volontaire. Il avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne. En France, de lourdes peines infligées aux principaux trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. C'est un procès hors normes qui vient de prendre fin. 32 prévenus comparaissaient à la barre. Les trafiquants à la tête du réseau de drogue ont été condamnés à des peines allant de 10 à 12 ans de prison ferme. L'avocat de l'un d'entre eux a déjà annoncé faire appel. Vladimir Poutine est-il mourant ? C'est en tout cas ce qu'affirme le renseignement américain. Le président russe aurait été traité des suites d'un cancer du pancréas avancé en avril. C'est le magazine Newsweek qui révèle ces informations venant de 3 agences de renseignement américains différents.
C'est parti pour Ça se dispute. Julien Drey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du mouvement Réinventé, point d'exclamation. Et avec vous, Gilles-William Goldanel,
bonsoir.
Vous êtes avocat. Bonsoir, maître. Alors, on commence cette émission avec ce sondage CSA pour CNews paru cet après-midi. Avec cette question, faut-il révéler la nationalité des personnes lors des interpellations à l'occasion des débordements survenus le soir de la finale de la Ligue des Champions. Gérald Darmanin s'y oppose, mais 61% des Français sont favorables à la révélation de la nationalité des personnes interpellées ce soir-là. Et vous, Julien Drey ?
Je ne vois pas pourquoi on serait contre. Franchement, je veux dire, c'est une information normale. Il faut faire attention, c'est que ça ne devienne pas une stigmatisation totale de tout ça, en disant, voyez, c'est vrai, mais je veux dire, si c'est des ressortissants étrangers, on peut savoir d'où ils sont. Voilà, je veux dire, je ne comprends pas le blocage du ministre de l'Intérieur là-dessus.
Bah pour être précis, le ministre de l'Intérieur a dit « Je n'ai pas à donner la nationalité des personnes que nous interpellons », avait lâché donc mercredi lors de son audition au Sénat Gérald Darmanin. Gilles-William Goldanel, faut-il révéler la nationalité de ces personnes interpellées ?
Je ne veux pas être désagréable, mais c'est presque une question saugrenue.
Oui, c'est ce que j'allais dire, moi aussi.
C'est un fait. C'est un fait d'ailleurs plutôt éclairant. Donc, oui.
C'est pas dans notre culture française de mettre en avant nationalités des uns ou des autres.
Dans la culture du déni, français, sans doute. Mais en termes d'objectivité médiatique, je ne vois pas ce qui. Je suis d'ailleurs chagriné quand on ne le fait pas. Mais bon, ça fait partie des. D'ailleurs, monsieur le ministre de l'Intérieur lui-même, la veille où il a dit ça, a dénombré les Anglais. Ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles dire il y a 200. Pour établir, je ne sais pas quel fait qu'il voulait prouver, a dit il y a 250 Anglais ou quelque chose comme ça. Donc, mais ça transcende ce déni-là. Transcende évidemment la question de la nationalité. C'est-à-dire que ça ne coûte rien, je l'ai souvent dit, de donner la nationalité des Anglais délinquants parce qu'ils sont trop blancs pour être honnêtes. Mais par contre, dire qu'on a arrêté des Algériens, on a arrêté des Tunisiens, on a arrêté un Palestinien, là, on heurte évidemment ce que j'appelle la xénophilie, qui est l'exact contraire, mais tout aussi négatif que la xénophobie. Bon, c'est aussi simple que ça.
À moins que ce soit à des fins électorales, hein, Julien Drey.
Non, ce que je veux dire, on donne nationalité, on ne donne pas l'arbre généalogique. Vous avez bien compris. Donc on ne va pas dire monsieur, je ne sais pas comment, plus parent, etc., qu'on donne sa nationalité. De toute manière, je pense que dans la procédure judiciaire, ça apparaît, si je ne me trompe pas.
Oui, enfin, il arrive quelquefois, sans avoir l'esprit chagrin, qu'on se garde de donner les patronymes, ou même que son garde de donner les prénoms, justement, au regard également de ce que j'appelle de ce vilain mot du politiquement correct.
Je veux dire, n'importe quel journaliste peut avoir accès à ça, dans le cadre du dossier.
Ah bah oui, non mais...
Quoi,
oui,
je veux dire, bon.
Oui, oui, non...
C'est ça que je trouve que c'est une polémique qui me semble bizarroïde, à moins, effectivement, c'est là que vous avez mis le doigt sur le problème, c'est qu'on a peur d'une certaine réalité, et comme on est la veille des élections, on ne veuille pas montrer cette réalité. Voilà. Mais le pire dans ces cas-là, vous savez quoi, c'est que c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que le fantasme va être encore plus grand parce qu'on n'aura pas la nationalité. Donc on va permettre à des tas de gens de dire, vous voyez bien, c'est des hordes, etc. Et tout. Je pense qu'à chaque fois qu'on joue avec la vérité, ça se retourne contre ceux qui veulent la cacher.
Enfin, ça n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a le monopole de ce désir de déni. Le jour même, ou à moins que ce soit la veille, sur France Inter, on a bien voulu reconnaître tardivement qu'il s'agissait d'étrangers ou d'étrangers en situation irrégulière, mais on n'a pas poussé la transparence jusqu'à donner la nationalité.
Alors, j'ai dit la plupart de ceux qui ont sévi, d'après les policiers eux-mêmes, n'étaient pas des étrangers. C'est une population qui est connue, notamment par les BAC et par tous les policiers de terrain. Ce sont d'ailleurs souvent des adolescents, des jeunes adolescents.
Ou des mineurs isolés.
Mais surtout des jeunes adolescents qui sont, des spécialistes de ce qu'on appelle le vol à la tire, la prise de portable, etc., qu'on retrouve dans d'autres endroits.
Enfin, je voudrais pas être l'avocat des Dionysiens, mais ceux qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel il y a quelques jours, c'était des étrangers en situation irrégulière.
Ceux-là, il est 6, mais comme il y a eu 105 interpellations.
La plupart d'ailleurs qui se sont commis, soit dans des vols, pickpocket ou agressions sexuelles, on en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Était en situation irrégulière, ou était des immigrés, mais la réalité, elle est là.
En situation irrégulière.
En situation irrégulière.
Effectivement, des témoignages ont révélé des agressions sexuelles, et Gérald Darmanin, à ce sujet, s'est dit ouvert à toutes les plaintes de ces gens qui ont été victimes, y compris depuis l'Angleterre depuis l'Espagne.
Oui. Enfin, il peut difficilement être fermé. De toute manière, on a essayé, si vous voulez. On a commencé par le déni. Mais malheureusement, pour ceux qui sont dans le déni, il y a la fâcheuse sphère. Donc, il y a eu les images. Une fois que le déni a été impossible, alors d'aucuns ont été dans le relativisme. D'aucuns ont dit, mais de toute manière, il n'y a pas de mort. Donc voilà, quand on en est réduit à ce relativisme-là, c'est qu'on n'est pas bien.
Alors messieurs, je vous soumets un autre sondage, une enquête Odoxa, Blackbone Consulting pour le Figaro. 76% des Français n'ont pas été convaincus par les explications de Gérald Darmanin. Eh bien, je vous pose la question, quel intérêt aurait-il à mentir, Julien Drey ?
Le paradoxe, c'est que là, vous voyez, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a été assez bon, faut être honnête, lors de son audition devant la commission d'enquête. Il était assez précis, il a pas trop cherché à biaiser sur la réalité des choses.
Il a persisté et signé, en fait,
il a fait
un timide mea culpa.
Il a quand même reconnu qu'il y avait des gestes qui n'étaient pas acceptables, qu'il avait lui-même pointé un certain nombre de choses qu'il avait signées à l'IGPN. Il a reconnu qu'il y a eu un cumul, ce qui est vrai d'ailleurs, de choses qui ont conduit à cela, qu'il y a des décisions qui auraient dû être prises. Il a dit lui-même, il a dit on aurait dû dégager les choses une demi-heure avant. Voilà. Donc je l'ai pas, franchement, par rapport à la situation précédente, je trouvais qu'il avait quand même fait un effort d'explication. Ce que je pense, c'est que c'est arrivé trop tard, et donc à partir du moment où ça arrive trop tard, il y a beaucoup de gens qui ne l'écoutent même plus.
C'était quatre jours après.
Voilà, c'est trop tard. L'explication qu'il a donnée devant la commission d'enquête, s'il l'avait faite lundi après-midi au sortir de la réunion avec les ministres, et qu'ils avaient tout de suite reconnu les erreurs qui ont été commises, celle qui était la plus timide, c'était la ministre des Sports, qui, elle, par contre, était vraiment dans le relativisme le plus total, en disant « mais moi j'aime les sportives, donc vous allez voir, tout va bien se passer, etc. »
Non mais...
Vous faites partie des 76% qui n'ont pas été convaincus.
Mais comment voulez-vous ? C'était une mission impossible. Il a beau s'exprimer bien, le ministre de l'Intérieur, et moi j'ai toujours considéré que c'était l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement, à l'impossible, nul n'est tenu. Il avait, si j'ose dire, brûlé ses vaisseaux britanniques, au départ, en disant qu'en mettant la faute sur la perfide Albion ou les ressortissants anglais, en pensant d'ailleurs que ça pouvait passer, puisque... Il y a eu 2 jours de déni médiatique. Donc, il pouvait espérer, il fut imprudent, que ça passerait. Mais malheureusement, la réalité, le cruel réel l'a rattrapé. Donc ensuite, il a beau être bon, Il ne pouvait pas, mais...
Non, c'est-à-dire qu'il il a été, oui. dans l'audition elle-même, d'après moi, oui. assez honnête oui. dans la réalité oui. des faits. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bobards, notamment sur, les, sur les milliers de faux billets.
C'est ce que j'y
disais. Et c'est vrai que la comparaison faisait que...
C'est impossible. Disait, voilà. Alors, je nuancerais quand même le satisfait de mon excellent contradicteur.
Moi,
je
n'ai pas de satisfait-site, j'essayais
d'être... Non, mais il n'y a pas de mal. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une députée, de, je crois, de chez les Républicains... a poussé justement la réalité jusqu'à dire, mais enfin quand même, monsieur le ministre, il y a eu des ressortissants étrangers qui se sont méconduits, etc.
Il a dit,
franchement, c'est indigne de son intelligence. Il a dit, mais c'est un discours nauséabond, etc. Non, mais enfin, c'est un discours bon à mettre dans la bouche de quelqu'un de chez les Insoumis. Pas d'un ministre de l'Intérieur qui est ami de
c'était
M. Sarkozy.
Pas, c'était
c'est
pas effectivement possible. Pas le meilleur passage de son audition. Et c'est vrai que je pense qu'il a, de ce point de vue-là, eu tort, parce qu'il valait mieux dire « Vous savez que nous avons des problèmes en France. C'est les publics que nous connaissons, avec lesquels nous sommes en confrontation permanente. Et effectivement, ça pose le problème de la manière dont nous gérons nos flux migratoires, la manière dont nous gérons un certain nombre de jeunes en situation irrégulière, la difficulté que nous avons avec les pays d'origine à pouvoir les raccompagner. » Je crois. Le problème dans cette situation-là, c'est toujours d'essayer de biaiser, et de biaiser par effectivement cette argumentation facile qui était désagréable. Vous êtes en train de stigmatiser. Si vous stigmatisez, c'est que vous êtes en train de faire le jeu d'eux. Et au contraire, dans ces cas-là, c'est lui qui fait le jeu d'eux. Parce que tout le monde dit, c'est le ministre, là, il est en train de...
Et en attendant, la presse britannique ne décolère pas.
Mais y compris le Guardian, qui est un journal très à gauche, et qui a décrit le réel, qui a d'abord, il a sans doute... Il a beau avoir l'esprit large, il a, à mon avis, goûté assez médiocrement l'anglophobie. Et puis, il a décrit le réel, à savoir que c'était des étrangers, pour la plupart du temps, qui s'étaient méconduits. Donc voilà, donc, y compris, encore une fois, l'équivalent du journal Le Monde de l'autre côté de la Manche. En ce qui concerne Le Monde, il est resté dans le déni le plus total.
Oui, il ne faut pas être complètement totalement naïf. Les Anglais ont trouvé là une bonne opération pour se faire la France en direct. Et il y a peut-être de l'anglophobie, mais il y a de la francophobie aussi. Aujourd'hui, le gouvernement actuel, qui est quand même en situation difficile, a tout intérêt à faire monter la sauce, etc. Parce que les supporters anglais, il faut être honnête, ce n'est pas les plus faciles à gérer. Quand
alors ceux-là, visiblement, ils sont justement très gérables.
Depuis dimanche, toute la presse a dit, les supporters... c'est pas simple. Moi, si vous me permettez, j'étais à côté de la Fat Zone parce que j'ai racines là-bas, quoi, dans ce quartier. C'était pas, y a pas eu d'incident, mais tous les commerçants vous diront d'abord que l'état des lieux était quand même, il a fallu plus de 24 heures pour tout nettoyer et que on était quand même à chaque fois borderline et la consommation d'alcool a atteint des niveaux records. Hein.
Julien, rarement les supporters de foot sont des pianistes distingués.
Hein? Ça dépend.
De manière générale.
Les Italiens sont toujours distingués.
Oui. Il y aurait beaucoup à dire des supporters, notamment de la Lazio Roma. Mais ce faisant, ou du Bétard de Jérusalem d'ailleurs, ce faisant, on ne peut pas dire que le Guardian britannique, qui est très contre Johnson, qui est très contre le Brexit, qui est très européiste, ait voulu spécialement être dans le national. Et d'ailleurs, toute la presse étrangère, au rebours justement de nos journaux convenus, toute la presse étrangère a été, si j'ose dire, à l'unisson, que ce soit la presse américaine, que ce soit la presse espagnole. La presse espagnole, dans son ensemble, la presse sportive, etc., est d'une rare sévérité pour ce qui s'est passé au Stade de France, que ce soit l'organisation, où il y a évidemment beaucoup à redire, que ce soit les actes d'agression sexuelle y compris.
Que la presse tombe sur le dos de la France à juste titre, regarde ce qui s'est passé, oui, mais je ne suis pas naïf non plus. On sait tous que les Français sont jugés comme des gens arrogants, qu'on n'a pas forcément bonne presse auprès de tous ces pays-là, parce qu'on est toujours là, nous, en train de donner des leçons. Et pour une fois, c'est eux qui peuvent nous donner des leçons, donc ils ne vont pas le gêner, c'est tout.
Oui, non,
ça n'excuse pas ce qui s'est passé, ça ne justifie pas ce qui s'est
passé. Je voudrais ajouter... à ce concours de déni, et je pense qu'on peut peut-être leur donner la première place, ce sont les féministes, en tout cas les ce qu'on appelle les néo-féministes, qui ont vraiment pris un bain à l'eau de Cologne. qui n'ont rien vu. Il y avait un article.
Vous faites référence. Je fais référence. Qui se sont déroulés un fameux 31 décembre à Cologne, oui. Où il y a eu des viols commis par des migrants. Je recontextualise pour nos téléspectateurs.
Heureusement que vous avez contextualisé, je ne voyais pas où vous
voulez. Compte tenu de la qualité de ceux qui nous écoutent, je pensais que c'était qu'ils avaient compris l'allusion. Non, mais ce faisant, on n'a pas entendu Caroline De Haas, on n'a pas entendu Madame Autain, alors qu'il y a eu des articles, il y a eu des témoignages, rien.
Mais là, c'était pas
Elles n'ont rien vu.
Ça, c'est pas là que ça s'est passé, c'était sur la question qui s'est passée en Allemagne.
Non. Je vous dis qu'à l'instar des féministes qui, lors des événements de Cologne, n'avaient rien vu non plus, nos féministes à nous, les Françaises, Non. Alors, toujours pas réagi par rapport aux exactions contre des femmes.
Alors, si vous me permettez, je nuancerai. Oui. Certaines militantes féministes, parce que le mouvement féministe ne se réduit pas, heureusement d'ailleurs, à ces personnalités-là.
Et que
les féministes qui combattent réellement pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne sont pas forcément toutes sur cette unité.
Afin de ne pas être rabrouées légitimement par vous, j'ai précisé les néo-féministes. Ah, je pense effectivement que Elisabeth Badinter, par exemple, ne doit pas être classée parmi ces femmes-là.
Avant de retrouver le flash de Jeanne Cancard, je vous soumets juste à un petit sondage CSA pour CNews. 65% des Français ont dit ressentir de la honte suite à ce qui s'est passé samedi dernier. J'imagine que vous partagez ce sentiment.
Non.
Vous n'aviez pas honte?
Non, j'ai pas honte. Personnellement, excusez-moi, je n'ai pas honte. Je crois que la plupart des Français ne doivent pas avoir honte, mais doivent être affligés, d'être attristés. D'ailleurs, ceux qui sont étonnés, leur étonnement m'étonne. Parce que, de toute manière, ce qui se passe au Stade de France, pour avoir été évidemment sous les sunlights, se passe de manière régulière chaque jour que Dieu fait en France quelque part. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, et que, alors peut-être parce que ça touche au football, je suis incapable de vous donner la recette de cela. Ce qui est exceptionnel, c'est que... Tout d'un coup, on dirait que ça y est, on découvre, si j'ose dire, l'Amérique. Non, et je n'ai pas honte. J'ai honte. Ceux qui ont été dans le déni, ceux qui ont été dans l'indulgence bienveillante, ceux qui ont été dans la culture de l'excuse, devraient avoir honte. Mais très sincèrement, c'est un sentiment qui ne les effleure pas du tout.
Je vous fais réagir dans un instant, Julien Drey. C'est le point info, il est 19h16. Jeanne Cancard.
À Paris, un homme a été interpellé aujourd'hui, gare Montparnasse, avec deux armes automatiques dans un sac, un fusil d'assaut et un pistolet automatique et leurs munitions. Le suspect, âgé de 19 ans, a été placé en garde à vue. Interrogé sur ses intentions, le jeune homme a expliqué qu'il devait se rendre à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour remettre à une autre personne ce sac, dont il affirme ignorer le contenu. Une semaine après la suspension de la très controversée disposition autorisant le burkini dans les piscines de la ville, Grenoble dépose un recours devant le Conseil d'État. Le recours sera examiné en audience le 14 juin prochain. La semaine dernière, les juges avaient estimé que les auteurs de l'article avaient, je cite, « gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public ». 10 départements du Sud-Ouest en alerte vigilance orange pour risque d'orage. Météo France alerte d'un fort risque de chute de grêle et de rafales de vent. Parmi les départements concernés, les Landes, le Lot-et-Garonne ou encore le Tarn.
Alors, retour dans Ça se dispute. Alors, Julien Drey, vous vouliez réagir à ce sentiment de honte.
Mais je suis contre les séances d'autoflagellation. Et je suis contre qu'on essaye de culpabiliser le peuple français, parce que c'est pas le peuple français qui est responsable. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont aux affaires, qui dirigent le pays, qui ont organisé ou mal organisé, c'est le cas de le dire, ce qui s'est passé. Donc je pense que les Français n'étaient pas contents de l'image que ça a donné de notre pays. Mais c'est pas la peine d'en rajouter dans cette séance d'autoflagellation qui m'agace. Moi, j'ai pas honte de mon pays, il y a eu un dérapage, je sais pourquoi il y a eu ce dérapage, enfin je sais... Pour partie, pourquoi il y a eu ce dérapage, je vois à peu près les fautes qui ont été commises, qui ont été assez explicitées d'ailleurs pendant l'audition. Le problème, c'est simple, c'est est-ce qu'il va y avoir des conclusions qui vont être tirées de manière sérieuse ou est-ce qu'on va continuer à jouer à cache-cache avec cette réalité-là?
Alors France-Danemark, c'est le match d'après. Je ne sais pas si, messieurs, vous avez l'intention d'y aller au Stade de France ce soir, mais sachez...
Vous avez d'autres obligations.
Vous avez d'autres obligations, mais ce n'est pas par peur, ce n'est pas par crainte.
Non.
Ah ouais, il m'a dit qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il avait peur.
Sachez en tout cas.
Il pensait qu'il avait 15 secondes de survie au stade de Hassani.
Vous vous rendez compte, il révèle nos conversations.
Sachez en tout cas.
On en est là. On en est là en France.
C'est la transparence.
Le dispositif de sécurité sera renforcé ce soir avec plus de 2000 policiers et gendarmes. Et pour éviter les vols et agressions avant et après la rencontre, 650 membres des forces de l'ordre seront dispersés aux abords non seulement du stade, mais aussi dans les transports. Donc quoi qu'il arrive, il ne faut pas se rater ce soir, messieurs.
Non, ce soir, c'est à peu près certain que les détrousseurs ne seront pas là. Ils ont compris que ce n'est pas la bonne date et que ce n'est pas le lieu et qu'ils vont effectivement être repérés. Donc je ne doute pas, bon, j'espère, hein, peut-être, oui, après, ou alors ça sera désespéré de tout. Je ne doute pas ce soir qu'il va y avoir un dispositif et que tout le monde va être très attentif et que le moindre incident va tout de suite être pris en charge et pris en main. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce dispositif-là n'a pas été... n'a pas été mis sérieusement en place la semaine dernière.
D'abord, je n'exclus pas quand même qu'il y ait quand même quelques histoires, notamment à cause du sentiment d'impunité assez légitime qui existe.
Enfin, là, ils sont compris.
Chez les malfrats,
ils sont pas stupides. Là, ils ont compris que tout le monde les attend au tournant.
Alors, j'observe également de manière un petit peu accessoire, mais quand même, c'est un fait révélateur de l'état d'une partie de la société française, c'est que on a décidé, enfin les grévistes, certains syndicats, ont décidé de faire grève également ce jour-là sur le RER B, ce qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, avec un cynisme invraisemblable, ils ont expliqué, pour justifier cette nouvelle grève, le succès qui avait été remporté lors de la grève de samedi soir dernier. C'est quand même une spécialité française. Je le dis, une spécificité que le monde entier ne nous envie pas, de ces grèves à répétition dans les transports publics, précisément au moment où ça peut le plus gêner le monde. Mais
c'est le jeu de la grève.
Pardon ?
C'est typiquement le jeu de la grève. Oui, alors, sinon, ça ne sert à rien de faire la grève si ça dérange personne. C'est plus un moyen de pression.
Oui, sauf que celui qui vous parle considère qu'il est totalement anormal de faire grève dans des services publics, mais je ne suis pas le seul à le penser. La plupart des pensées des pays du monde le pensent aussi. C'est une spécificité française, mais on a tellement décérébré les gens qu'ils ne réagissent même plus. Et voilà.
Alors, c'est un peu plus compliqué, parce que d'abord, ouais. Ce n'est pas les syndicats, c'est ouais. Une section syndicale. Je ne veux pas donner son nom, parce que ce n'est pas à moi de...
Alors, je vous en prie.
Non, parce que
un peu de transparence. Mais sortez du déni, monsieur Drey.
C'est parce que, justement, je pensais que vous alliez donner...
Oui, je l'ignore.
Voilà.
C'est
la section de la CGT, il faut être honnête.
Ah ouais.
Qui n'est pas, d'ailleurs, forcément dans la ligne de la Confédération, d'après ce que j'ai compris, qui a pris cette décision-là et qui a fait ce communiqué, effectivement, un peu surprenant, en disant, se félicitant du succès, etc. Mais dans cette affaire-là, il n'y a pas que les syndicalistes qui sont responsables. Autant que je sache, il y a une direction dans ces entreprises. La question donc du dialogue social, la capacité d'une direction à anticiper les problèmes qu'il y a, à recevoir les organisations syndicales, à trouver des solutions, ça existe aussi. Donc les pays dont vous citez, c'est les pays où le dialogue social existe et où la confrontation n'est pas obligatoirement tout de suite menée pour aller à la grève. Or, nous avons un certain nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise, notamment les entreprises publiques. Ça, le pire maintenant, c'est qu'ils décident de montrer qu'ils sont les plus forts et qu'ils jouent des fois des épreuves de force de ce style-là pour pouvoir après ne pas avoir négocié sur d'autres choses. Donc la responsabilité n'est pas forcément que du côté des syndicats, même si je pense que, comme d'autres syndicats l'ont dit d'ailleurs, ce n'est pas forcément très malin de faire la grève là, mais il y a tout un contexte aussi qu'il faut prendre en considération dans ces entreprises.
Et dans ces conditions, faut-il s'inquiéter de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et des JO 2024, où effectivement ce même syndicat pourrait exercer le même moyen de pression
dans notre pays,
lors de ces événements internationaux.
Dans notre pays, l'inquiétude, malheureusement en ce moment, est un sentiment parfaitement compréhensible et légitime. Je maintiens, si vous voulez, que cette façon de faire et de fulminer des grèves au pire moment pour les usagers du service public, par ailleurs contribuables, par rapport à ceux qui les payent, et quelque chose, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a qu'en France où il n'y a pas de dialogue social. Cela
on
étant, la vérité m'oblige à vous dire, avec une certaine satisfaction que j'ai dans la voiture, qui cinglait vers vous, j'entendais que la grève était assez peu respectée, que dans le RER fonctionnait pratiquement
normal. Et j'ai entendu aussi qu'effectivement, cette portion de RER ne gênerait pas trop...
J'en accepte l'augure.
Voilà non, les usagers de ce soir.
Il y a des mécanismes, je voudrais quand même faire attention, il y a des mécanismes normalement d'alerte qui ont été mis en place. La loi, quand des syndicats déposent des grèves de ce type-là, la loi, notamment dans les services publics, oblige les directions à prendre en considération les choses, à organiser les réunions, à essayer de trouver des solutions. Il y a eu des très bons dirigeants d'entreprises publiques. Je pense à M. Guillaume Pépi, par exemple, qui, quand il sentait qu'il y avait un conflit, il prenait l'initiative tout de suite. Mais vous avez aussi une culture maintenant dans les entreprises publiques, parce que dans les entreprises privées, il y a beaucoup aujourd'hui de patrons qui ont compris que ça ne servait à rien d'aller au conflit pour le conflit, mais qui considèrent qu'y compris, c'est une manière de se faire bien voir par la haute hiérarchie en montrant qu'eux, ils sont fermes, ils sont violents, ils sont... Parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont opposer l'opinion aux grévistes et que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Et le résultat, c'est que tout le monde est perdant.
De toute façon, c'est un combat intellectuel que j'ai perdu d'avance. Il fut un temps où la droite elle-même faisait comme un, dans son discours politique, la fin des grèves, l'interdiction des grèves.
Un service minimum garanti.
Pour les services publics, avec un service minimum garanti. Monsieur Sarkozy, qui n'est pas le pire de mes ennemis, se vantait même en disant, vous avez, quand il est arrivé aux affaires et qu'il a modifié certaines choses, se vantait en disant, vous voyez beaucoup de grèves dans les services publics, comme si la chose maintenant était acquise. Et vous vous souvenez que lors de l'affaire de la retraite et du contentieux politique et syndical sur la retraite, vous vous souvenez à quel point dans les transports publics, il y a eu des grèves. Mais j'observe, encore une fois, c'est perdu, puisque maintenant, je n'ai pas entendu un représentant de la droite politique se plaindre de ce dont je me plains moi-même. Donc ce combat est maintenant perdu. Je pense que c'est une véritable décérébration.
Non, mais le combat, il n'est pas perdu. Le combat qui est posé, c'est simple, c'est que... On est sur une revendication qui concerne le Covid, c'est-à-dire des heures qui n'ont pas été payées par des gens qui ont travaillé.
Prime Covid à hauteur de 1500 euros.
Qui ont pris sur leur temps et qui prenaient même des risques. On regarde la réalité des choses. Ça veut dire que la direction de l'entreprise, je m'excuse de le dire, elle avait le temps quand même de se préparer, de discuter, de dialoguer, de trouver des solutions. Donc c'est pas une. Là, vous êtes un peu, si vous me permettez ça, manichéen. C'est-à-dire qu'il y a les grévistes qui sont des méchants et puis il y a tous les autres qui sont des gentils. Peut-être que c'est un peu plus nuancé, la vie. Elle n'est pas forcément toute blanche ou toute noire.
Il est possible que je regarde avec sévérité. La CGT, le syndicat Sud, qui me paraissent être, sans avoir l'esprit trop chagrin, dans la surenchère permanente.
Mais si la direction de l'entreprise fait bien son travail, peut-être qu'il y a des organisations syndicales qui font de la surenchère, mais les salariés, ils sont c'est pas des imbéciles. Donc s'ils estiment que les choses ont été prises en considération, qu'on a apporté des réponses à leurs questions, ils vont pas faire grève. Ça veut dire que les mots d'ordre syndicaux, vous savez, il y a plein de fois des mots d'ordre syndicaux qui n'ont aucun succès et où les grèves ne marchent pas.
Ça se dispute.
Je n'arriverai pas à convaincre mon contact.
Non, on vous mettra pas d'accord. Ça se dispute, ça se poursuit. Dans un instant, il sera question de tenue islamique. Restez bien avec nous. De retour dans Ça se dispute avec, bien sûr, Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, point d'exclamation, et en compagnie également de Gilles William Goldnadel. Pardonnez-moi.
Goldnadel. Oh non, mais il n'y a pas de mal. Vous savez, je suis habitué, j'ai un bêtisier, Gronadel, Gornadel, Goldnadel, il n'y a pas de mal.
On est la même chose, Anne Isabelle.
Quand on le dit bien, je suis content, voilà. Mais c'est rare.
Je vous promets que je vais faire un effort. Bon. Je rappelle que vous êtes avocat.
Je vous le confirme.
L'école française face à la multiplication des tenues islamiques. Plusieurs rectorats tirent la sonnette d'alarme. Des élèves se rendent en classe vêtus d'une abaya, longue robe simple ou d'un kamis, vêtement long porté traditionnellement par les hommes de confession musulmane et arabe. Mais avant d'en débattre, je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen, qui était l'invitée de Laurence Ferrari. Ah, et juste avant, on va écouter le flash de Jeanne Cancard.
Oui, tout de même.
En Allemagne, le déraillement d'un train a fait au moins 4 morts et une trentaine de blessés. Peu après le départ du train, plusieurs wagons à destination de Munich sont sortis des rails. Les opérations de sauvetage et d'évacuation se poursuivaient en fin de journée. La cause de l'accident, elle, n'est pas encore connue à ce stade. L'Union européenne poursuit ses sanctions à l'encontre de Moscou et décide de bannir la majeure partie du pétrole russe dans les 6 prochains mois. Objectif, tarir le financement de la guerre contre l'Ukraine. L'Union qui élargit aussi sa liste noire à une soixantaine de personnalités. Cette nouvelle salve de sanctions est la plus importante prise contre la Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine. À Roland-Garros, terrible désillusion pour Alexander Zverev, l'Allemand contraint d'abandonner en demi-finale face à Rafael Nadal, alors qu'il était mené 1-7-0. Le tennisman de 25 ans s'est blessé à la cheville après plus de 3 heures de jeu. Rafael Nadal affrontera donc dimanche en finale le vainqueur du match opposant Marin Cilic à Casper Ruud.
Il a eu mal, hein, il s'est tordu le pied.
Allez, on reprend notre débat sur les tenues islamiques. Juste avant le mini-JT de Jeanne Cancard, je vous proposais d'écouter Marine Le Pen, qui était invitée de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale CNews.
Il y a un plan politique. L'objectif, c'est d'imposer une culture qui n'est pas la nôtre, et c'est pour les islamistes d'imposer en réalité les règles de la charia. Donc le burkini, ça n'est qu'une étape en réalité de ces réclamations. Demain, ce seront ces vêtements islamiques à l'école, ce sera le voilement des fillettes. Et qu'est-ce qui, dans la loi, interdit de voiler une petite fille de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans? Rien.
Messieurs, quelle réaction à ce que vient de dire Marine Le Pen ?
Je ne partage que partiellement ce que dit Marine Le Pen concernant ce dont vous parlez, vous, la tenue, parce que c'est pas...
On reprécise, hein. Les abayas sont des tuniques de femmes longues, voilà. Mais le visage est découvert.
Voilà.
C'est porté généralement en Arabie Saoudite et à Dubaï, voilà. Dans les Émiratis.
Et pour les hommes, ça s'appelle...
Et les hommes, c'est le kamis, d'accord. Ou le chalwar kamis en Afghanistan et au Pakistan, qui est une tunique longue avec un pantalon en dessous,
portée majoritairement par les hommes. C'est pour ça que j'ai une nuance. Ça n'a pas une vertu, si j'ose dire, religieuse. C'est plutôt d'ordre...
Traditionnel.
C'est seulement, si j'ose dire, d'ordre culturel. C'est pas... Alors, donc, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit. Je ne vois pas pour quel motif... légal, ce serait interdit, mais pour autant, je suis loin de m'en réjouir sur le plan culturel, parce qu'il se trouve qu'on est en France et que je suis plutôt à Rome, vis comme les Romains, vous voyez, et d'ailleurs dans les pays étrangers, et notamment ceux que vous avez cités, ils pensent la même chose. Le seul problème, c'est qu'on a tellement fait l'éloge du multiculturalisme que ces gens-là, je ne suis pas sûr, hein, que ce soit dans un geste de défi. Ça traduit seulement, tristement, lamentablement, eh bien, l'échec total de l'intégration. Et je ne vous parle même pas d'assimilation. Donc voilà, alors peut-être que je suis le roi des naïfs, mais je ne le vis pas comme une énième tentative, comme le voile ou la burqa ou le burkini, où là c'est totalement clair d'être dans les menées de l'islam politique. Je crois que ça traduit ou ça trahit l'échec lamentable en race campagne de l'intégration.
Mais comment dire, je suis un peu étonné, mais par cette forme de naïveté. Il n'est pas habituel.
Non, mais on est toujours. Je vous signale que sur ce terrain-là, vous êtes plus radical que moi, mais je n'en tire aucune vanité.
Parce que vous êtes plus communautariste que moi.
Ah bon ?
Moi, je pense que ça fait partie d'une volonté politique de communautariser la société française, hein, avec des groupes politiques islamistes qui utilisent tout ce qui est possible et imaginable dans les failles de nos dispositifs légaux, de vie traditionnelle, etc., pour essayer d'imposer cette communautarisation. Alors, ce ne sont pas des habits religieux, mais ce sont des habits qui ont une connotation idéologique.
Et est-ce que vous trouvez que le sari en Inde a une connotation religieuse? Parce que c'est l'exact équivalent du chalwar kamis.
Oui, mais
chez les musulmans, en fait.
Si on rentre là, je vois bien l'argumentation telle qu'elle va se développer et la tolérance qui va s'installer en disant mais dans les autres pays, etc. On est la République française, il y a des traditions, il y a un modèle culturel et je vois pas pourquoi, alors qu'il y a des millions de musulmans qui acceptent ce modèle culturel, le vivent parfaitement et même considèrent que c'est un modèle émancipateur pour eux et je pense notamment aux filles, on voit bien que derrière, quand c'est un geste quand même de défiance et d'arrogance à l'égard de la société française, parce que la plupart de ceux qui le portent, alors je parle pas de ceux qui le portent pour le vendredi pour aller à la prière. Parce que ça, c'est une tradition, ça fait partie d'un acte religieux que je respecte, etc. Mais quand c'est toute la journée, et quand c'est à l'école, et qu'on veut imposer ça à l'école, on voit bien que là aussi, on est confronté à une nouvelle offensive qui va certainement poser des problèmes à l'intérieur d'institutions scolaires, parce qu'il va y avoir des professeurs qui vont dire c'est une forme, il va y avoir des conflits à l'intérieur des classes. Alors on peut dire on voit rien, et puis jusqu'au jour où la population elle-même va dire ça suffit. Voilà. Alors vous aurez des gens qui retireront leurs enfants et qui les enverront dans des écoles privées parce qu'ils ne voudront pas être soumis. Donc c'est pour ça que le président de la République a été très délicat, je dirais, hier.
On va l'écouter, d'ailleurs, le président.
On va évaluer pour voir. Bon, je connais à peu près ce genre de déclaration. Ça veut dire la prudence et essayer de voir si on peut pas. Mais le phénomène est un phénomène qui commence à être en augmentation. Donc c'est pas simplement quelques individus, c'est autre chose. Et il va y avoir un phénomène de mimétisme aussi. Et il va y avoir plus grave encore. C'est que toute une série d'enfants et de jeunes qui ne le portent pas dans les écoles et qui ne veulent pas le porter parce qu'ils veulent pas être identifiés. Ils veulent qu'on leur foute la paix parce que leur religion ou leur appartenance idéologique, culturelle, etc., c'est leur affaire personnelle, vont se trouver sous la pression de ceux qui le portent et qui vont commencer à leur dire « supporte pas, t'es un traître », etc., et qui vont donc se plier. Donc il va falloir que dans les règlements intérieurs des établissements scolaires, cette question soit clarifiée. Est-ce qu'il va falloir revenir aux uniformes ou à la blouse? J'en sais rien. C'est un débat qu'il va falloir avoir, mais il va falloir clarifier les choses. Sinon, nous aurons des conflits majeurs dans l'institution.
Et on va écouter ce que disait justement le président Macron qui demande plus de clarté sur cette question.
Comme en toute matière, quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Donc nous sommes en situation constamment de le mesurer. Donc on fait remonter, ça c'est la responsabilité de Monsieur le ministre, ces informations. Et là-dessus, je vais être très clair, la politique que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il ne doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et donc moi je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux quel qu'il soit.
Enfin bon, on est toujours dans le en même temps. C'est ça devient, je sais pas, risible.
C'est bien fait.
C'est à rire ou à pleurer. Ça dépend le tempérament qu'on a. Parce que là, il est maintenant un petit peu dans un discours de la rigueur. Il est derrière le nouveau ministre Papendiaï, qui est l'exact contraire de M. Blanquer, qui était plutôt dans le républicanisme, contre l'islamo-gauchisme. Et quelqu'un, ce Papendiaï, ce ministre, cet intellectuel brillant, Finkielkraut dans le Figaro hier, ça m'avait échappé dans l'article que j'ai commis sur lui dans le même journal, a déclaré quand même que ceux qui agressent les Blancs ne sont pas des racistes parce que les Blancs font partie du peuple dominant. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'on s'en sorte? Là, on fait un discours républicain, il n'est pas question d'aller en... voilà. Et puis, on nomme à la tête du ministre des écoles quelqu'un qui est complètement dans le communautarisme, qui est dans le racialisme, etc.
Mais vous lui faites un procès d'intention, on va voir comment il va agir en tant que ministre.
Quand on est schizophrène politiquement, on ne peut pas s'en sortir. On a déjà, vous savez, on a déjà tellement à faire. Et pardon, mais on est dans la duplicité au sens littéral du terme.
Non, mais là, en l'occurrence, pour ce qui est de ce phénomène et de tout ce qui va autour, on ne peut pas tout de suite se précipiter sur le ministre en disant il est le responsable. J'observe quand même au passage que l'homme que vous mettez en avant, qui était M. Blanquer, en termes de résultats, par rapport au discours qu'il avait annoncé, excusez-moi, c'est pas terrible, hein, parce que la preuve, c'est qu'on est en train de constater que la situation s'est dégradée. Donc c'est bien qu'on avait un ministre qui a beaucoup parlé, qui a séduit toute une série de milieux laïcs, intégristes, j'aime pas d'ailleurs, s'il n'y a pas de laïcité intégriste, mais de gens qui étaient très fermes sur ces questions-là, qui disaient on a enfin un ministre de l'Intérieur qui a tout, de l'Éducation nationale qui a tout compris. La vérité, c'est qu'il s'en est pas, il a laissé plutôt les enseignants tout seuls, et que les recteurs, etc. et tout. Donc, on va pas faire de procès à M. Ndiaye. Moi, j'attends le moment où il va prendre la parole, j'espère que ça va pas tarder, où il va donner un certain nombre d'éléments d'information. Si les éléments d'information, si ce qu'il dit ou propose va dans votre sens, il faudra le dénoncer. Mais je vois pas pourquoi, a priori, vu ce que je lis, qui est assez contradictoire dans ses propos, je vais lui faire un procès d'intention spontané, parce que ça a l'air de tout tout sauf un être stupide, si vous me permettez l'expression.
Vous savez, on peut ne pas du tout être stupide et avoir des idées que je considère comme pernicieuses. Hein. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la stupidité. D'abord, j'étais dans le symbole. Dans le symbole, quand j'entends le président de la République faire un discours vigoureux contre ce genre de tenue, derrière quelqu'un qui... Alors, c'est, encore une fois, c'est un intellectuel brillant qui connaît exactement le sens des mots. Je ne suis pas dans l'a priori, je suis dans l'a posteriori.
Non, parce que par si rapport vous avez bien observé les images, il est en train d'osciller de la tête en se donnant le sentiment qu'il approuve les propos du président.
Alors dans ce cas-là, je suis convaincu. Alors dans ce cas-là, vous m'avez retourné comme une crêpe.
Je ne vous retourne pas comme une crêpe parce que vous n'êtes pas retournable. Bon. C'est pas la question qui est posée. Je dis simplement, nous avons un ministre qui a été un intellectuel, qui a étudié ces questions-là, qui a des a priori liés à une certaine fascination, pas fascination, mais étude du modèle anglo-saxon, etc. Est-ce qu'il va poursuivre dans ce domaine-là ce qui était sa tentation première, ou est-ce qu'il va lui-même être amené à considérer, au regard de la réalité de ce qui se passe dans l'établissement scolaire et du débat qu'il faut avoir, qu'il y a des règles à réimposer? Moi, je pense que dans les établissements scolaires aujourd'hui, le plus grand danger, c'est qu'on laisse les enseignants tout seuls face à cette réalité. Donc il y a un moment donné où il va falloir mettre les points sur les i. Donc ça sera la responsabilité du ministre.
Allez, on avance, messieurs, on a beaucoup de sujets. Dimanche prochain se déroule le premier tour des élections législatives, mais elles ne semblent pas passionner les Français. Moins d'un Français sur deux serait intéressé. Comment expliquez-vous ce désintérêt pour ces élections ?
Et si vous m'interrogez, moi je ne suis pas un très grand spécialiste de tout cela, mais enfin, à l'instinct comme ça... Je pense que le combat manque de combattants. C'est-à-dire que la droite, d'une certaine manière, a démissionné. Les Républicains sont maintenant... Vous avez vu comment ils se sont...
Donc les jeux sont faits, c'est pour ça que...
Alors vraiment, je suis dans... Et je vous parle au premier degré. Je suis dans l'incapacité totale d'imaginer les résultats. Mais vous me questionnez non pas sur les résultats, sur des prévisions... Vous me questionnez sur le fait que ça soit morose. Eh bien, écoutez, les Républicains sont aux abonnés absents depuis la défaite en race campagne de leur candidate. La droite plus radicale a été incapable de s'unir. Mieux que cela encore, et j'avoue que j'en veux beaucoup à ce que je considère mon camp, de ne pas avoir mené la bataille culturelle, le combat culturel, dès les élections présidentielles, contre le danger de l'extrême gauche. Donc maintenant, ils se réveillent, commencent à se réveiller. C'est évidemment trop tard. Et de l'autre côté, vous avez une union de la gauche qui est, pour la première fois dans l'histoire française, dominée par l'extrême gauche, parce que tous les fronts populaires d'avant, c'était complètement le contraire depuis 1920. Donc mais pour autant, je me garderais bien d'être pessimiste ou de vous dire de donner le résultat. Mais au niveau du climat, on entend pratiquement que l'extrême gauche, les autres. Alors, Madame Le Pen semble se réveiller.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a ses chances, Julien Drey ?
Je pense qu'il a intelligemment vu les failles du dispositif. J'étais très dubitatif, je vais être honnête avec vous, avec son histoire de Élisez moi Premier ministre. Mais en même temps, je dois reconnaître que d'un certain point de vue, ça a pris. Ça a pris parce qu'il y a toute une partie du peuple de gauche qui avait l'impression d'avoir été humilié tout au long des années qui viennent de s'écouler, qui a été peu regardant sur le programme parce que le sentiment unitaire s'est imposé au-delà du programme. Ce n'est pas forcément quelque chose qui sera positif dans les années à venir au regard de la réalité des choses. Mais là, il y a une dynamique qui existe et ça serait malhonnête de ma part de ne pas le reconnaître. Même si je soutiens tous ceux qui ont refusé de passer sous la toise idéologique de Jean-Luc Mélenchon et qui sont candidates ou candidats, et j'espère qu'ils seront nombreux à montrer qu'il y avait une autre alternative possible et qu'on pouvait être un socialiste réformiste en défendant fièrement son identité sans être obligé de tout accepter. Mais c'est vrai qu'ils ont cette forme de dynamique et qu'en face, il y a un coup de mou. Pas sur la droite. C'est pas sur la droite.
Je vais
30 secondes. C'est pas la droite. Le coup de mou, il vient de la majorité actuelle. On a le sentiment qu'ils ont eu l'impression qu'ils avaient gagné facilement et que les législatives étaient une formalité. Et il faut faire très attention parce que on a un exemple. C'est les élections législatives de 1997, où quand on dissout, Jacques Chirac est convaincu, et Alain Juppé l'a convaincu, que les choses vont se passer très facilement. Et le résultat, vous en souvenez.
Cohabitation.
Et donc le risque existe que le pari de M. Mélenchon
ne puisse pas très bien marcher. Mais d'abord le rappel des titres avec Jeanne Cancard.
S'il le faut.
Près d'une semaine après le fiasco autour du Stade de France samedi dernier, l'UEFA présente ses excuses aux supporters qui ont subi, je cite, les événements pénibles entourant la finale de la Ligue des Champions. Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation et cela ne doit pas se reproduire, insiste l'instance européenne qui a ordonné lundi une enquête sur les incidents survenus en marge de la rencontre. De son côté, Emmanuel Macron se dit, je cite, indigné par ce que nous avons vu. Le président de l'Union africaine se dit, lui, rassuré après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le président du Sénégal a fait part au président russe de ses craintes sur les conséquences en Afrique d'une crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. D'après lui, le chef du Kremlin est, je cite, engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles. De son côté, l'ONU craint un ouragan de famine, essentiellement dans des pays africains qui importaient à l'époque, avant l'offensive russe en Ukraine, plus de la moitié de leur blé depuis l'Ukraine ou la Russie. Michel Polnareff s'installe dans l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de Paris. Le chanteur est de retour avec un spectacle baptisé Polnareff, référence à sa chanson sortie en 1974. Une expérience immersive qui a ouvert aujourd'hui au Palace.
Comme promis, Gilles William, je vous donne la parole.
Je voulais corriger un tout petit peu l'enthousiasme, un peu tardif, c'est vrai, de Julien Grey sur l'habileté de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a uniquement profité de la faiblesse de ses adversaires à gauche et de la maladresse avec laquelle Mme Hidalgo, pour le PS, s'est présentée. Le PS aurait pu, un peu comme les partis socialistes scandinaves de la social-démocratie, faire une politique évidemment différente de l'extrême-gauche, on ne l'a pas vu. Et quant aux écologistes, M. Jadot, qui en principe un modéré, a été déconstruit par Mme Rousseau. Alors évidemment que compte tenu de la faiblesse de leur score, les insoumis étaient... Il n'a quand même pas été au deuxième tour, M. Mélenchon, était un peu plus valeureux. Plus, je maintiens, la faiblesse au niveau du combat contre l'extrême-gauche, de la droite toute confondue, et de M. Macron, qui s'est réveillé uniquement maintenant, ça explique pourquoi... C'était à la portée de n'importe qui. Hein.
Ouais, pas forcément.
Bah oui.
Non, ça, bon. C'est pas évident. En tous les cas, ce que vous dites est pour une part vrai, mais c'est un habile tacticien. Et c'est pas.
Il est fort de la faiblesse des autres.
Bah oui, mais bah, oui, y a pas ça, quoi... c'est aussi ouais. ça la tactique.
Ah bon.
Bon, parfois, c'est voir la faiblesse
des autres. L'extrême gauche était elle-même. Hein. On peut pas leur reprocher
mais,
ça.
D'accord, mais
ils ont pas fait de concession.
Ça a été un habile tacticien face à des adversaires qui ont été pour une part nuls ou par ailleurs. Tellement complaisants qu'ils ont disparu.
Ça, c'est... Au point que Michel Sardou craint qu'effectivement il devienne Premier ministre et qu'il a déclaré dans les colonnes de Paris Match cette semaine que si Jean-Luc Mélenchon était élu, il se tire. Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu. Monsieur Michel Sardou, m'accordez-vous un entretien? Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. Messieurs,
excusez-moi, 30 oui. secondes. Mais du point de vue de connaissance qui arrive Jean-Luc Mélenchon,
c'est malin.
Vous voyez bien qu'il est habile.
Parce que c'est
tout.
Il pouvait difficilement dire autre chose
non, il aurait pu,
à l'un des chanteurs préférés des Français.
D'accord, mais il aurait pu, connaissant le caractère de Jean-Luc Mélenchon, lui dire casse-toi, personne n'a besoin de toi. Il l'a dit à d'autres.
Il a dû peser le pour et le contre.
D'accord, mais bon, c'est tout.
Attends. Messieurs, un peu de discipline.
Bah oui.
MeToo a été tué, dixit. Les féministes qui ne décolèrent pas après le verdict du procès de Johnny Depp et Amber Heard. Ce mercredi, Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation. Ce verdict a fait l'état d'un coup de massue pour de nombreuses militantes qui regrettent qu'elle ne soit pas considérée comme... une victime. Voyez ses tweets de soutien, notamment celui, par exemple, de Caroline Haas, qui s'adresse à Amber Heard et à toutes les femmes qui ont été ou sont victimes de violences de leur mec, mari ou de leur ex. On vous croit, vous êtes courageuses, ils n'ont pas le droit, nous sommes à vos côtés. Soutien également de Sandrine Rousseau. Le procès hashtag Johnny Depp vs Amber Heard a été l'occasion d'une débauche de haine misogyne sur les réseaux sociaux. Je continuerai à soutenir Amber Heard et au-delà de la parole des femmes, parce que non, ce procès ne sera pas l'occasion d'un backlash que tant espèrent. Jim William, je vous sens fulminé.
Fulminé, non, parce que j'ai l'habitude de cette pensée particulière. Non, mais j'ai quand même été étonné. Je vous avoue que j'ai été un peu étonné. D'abord, un titre de Libération qui expliquait que les deux avaient perdu. Alors qu'il y en a une qui doit payer 15 millions et l'autre 2 millions. C'est quand même particulier. Mais c'est parce que dans l'esprit, au moins dans l'inconscient de Libération, qu'une femme n'ait pas raison, ça gêne quelque part. Bon, alors, que Mme Rousseau et que Mme De Haas aient des a priori, ça, effectivement, ça ne m'étonne pas. Elles considèrent que la femme a raison. C'est un procès qui se passe à des milliers de kilomètres. Elles ne connaissent pas le dossier. Les deux sont complètement contraires dans la réalité qu'ils exposent. Mais par un a priori, c'est la femme qui a raison, c'est la femme qui dit la vérité. Elle ne peut pas mentir. Bon, ça, j'avais l'habitude. Mais la justice est passée. La justice populaire est passée. Eh bien, malgré tout, alors, on n'est plus dans l'a priori, on est dans l'a posteriori. Elles ne veulent rien savoir. Les juges, forcément, le jury populaire, ça devait être tous des bachos, j'imagine. Mais quand même, elles le croient. À ce degré, si vous voulez, de pensée factice, de pensée sexiste, on est dans le sexisme le plus total. Et bon, écoutez, moi, je vous avoue qu'elles ont réussi quand même à m'étonner.
Je dois malheureusement rendre l'antenne, Julien Drey.
Je ne suis pas convaincu que Caroline De Haas, comme Sandrine Rousseau, rende service à toutes les femmes qui sont battues, qui sont violées, qui sont victimes d'agressions. Parce qu'elles donnent le sentiment de prendre des positions a priori, qui fait que ça va cristalliser quelque chose qui pourtant est en mutation dans la société française. Parce que la parole des femmes est aujourd'hui prise en considération. C'est pour ça que je ne considère pas que ce soit des grandes leaders féministes.
Le temps nous manque malheureusement. J'aurais aimé qu'on parle du jubilé de la reine et vous demander d'ailleurs si vous saviez quel cadeau la France avait donné à la reine d'Angleterre. Il s'agit
d'un cheval, d'un des plus beaux
chevaux de la garde républicaine. Ça se dispute, c'est terminé. Tout de suite, l'heure des pros 2. Merci de votre fidélité.